Bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver, de vous présenter deux auteurs de romans de la rentrée littéraire de septembre, l'année dernière donc, qui ont beaucoup plu, ont beaucoup plu à notre équipe, au comité de rédaction, qui ont emporté les suffrages sans trop de discussion, qui m'ont personnellement beaucoup touché également. Je dis bien touché alors qu'on est dans un sujet a priori documentaire, puisque ce qui va nous concerner est ce que ces deux livres ont assurément en commun, celui donc de Célia Lévy, La Tannerie, Célia Lévy à ma droite, et celui de Thomas Flaho, Les Nuits d'été. Ce qu'ils ont assurément en commun, ces deux livres, c'est d'une façon romanesque de nous dire quelque chose de la jeunesse, d'une jeunesse contemporaine, et d'un moment clé de la jeunesse, d'un moment de bascule, qui est celui de son entrée problématique dans le monde du travail ou ce qu'il en reste, selon les contextes. Par ailleurs, les deux livres diffèrent, hein, aussi bien par leur format. Le roman de Célia Lévy est beaucoup plus long. C'est un roman d'apprentissage long, volontairement long, qui laisse une large place au temps, qui se déroule aussi sur un temps plus long, parce que celui de Thomas Flaho se passe dans un été. Les Nuits d'été, voilà, ça se passe sur 3 mois, et là, ça se passe plutôt sur 2 ou 3 ans. Ils sont différents donc dans leur forme. Hein, je parlais de roman d'apprentissage. Le vôtre, Thomas, est écrit au présent, est plus court. Les phrases aussi sont plus brèves, majoritairement, je pense. Le vôtre, Célia, et c'est quelque chose dont on parlera sans doute aussi, s'inspire très volontairement de formes classiques et des romans d'apprentissage du 19e siècle, qu'il transpose dans un autre contexte. Il diffère aussi par les lieux et le monde du travail considéré à chaque fois. La Tannerie, c'est la découverte par une jeune femme, Jeanne, du monde du travail culturel. Sur quoi la littérature nous avait assez peu documenté jusqu'ici. Très contemporain, ça se passe dans les années 2015, Nuit debout y est présent. Et Jeanne fait ses premières armes donc dans le monde du travail, après quelques stages en librairie et autres, un petit peu par hasard dans cette tannerie qui est, comme son nom l'indique, une ancienne tannerie, reconvertie en fabrique culturelle, en centre d'art contemporain et de spectacles vivants, aux abords de Paris. Alors c'est une tannerie assez générique, hein, qui pourrait s'inspirer de centres d'art contemporain et de cette tendance à la revalorisation d'un patrimoine industriel en lieu culturel, dont on pourra parler aussi, parce que quelque part, par opposition, ça, les livres se rejoignent à cet endroit-là sur ce que sont les lieux industriels. Donc ça se passe à un endroit particulier, à un moment particulier. Et le livre de Thomas Flaho, lui, se passe largement ailleurs, en province frontalière, du côté de Besançon, dans ce mystérieux Jura. Il y a l'autoroute transjurassienne qui a un rôle important, parce qu'il s'agit d'un triangle de narrateurs, dont deux jeunes hommes, qui sont Thomas et son ami d'enfance, Mehdi, qui sont pour l'été, au moins, travailleurs frontaliers, hein, des gens qui font le passage tous les jours de la frontière pour aller bosser en usine de façon précaire et intérimaire. Et je parlais d'un triangle parce qu'il y a également Louise, qui est la sœur de Thomas. Normalement, Thomas ne travaille là que pour l'été, hein, un petit peu comme Mehdi, mais pour des raisons différentes, parce qu'il est censé être étudiant et venir revenir chez lui pour travailler l'été. Puis en fait, Thomas a lâché ses études et donc a un moment de doute sur ce qu'il peut devenir. Ces deux livres-là, on ça en commun, hein, de parler de la jeunesse, de dire ce moment-là de la jeunesse, ces moments de bascule et de troubles profonds où, par l'entrée dans le travail, on demande à des jeunes gens de se définir comme par un projet, hein. C'est un projet professionnel, hein, qu'on doit avoir dans la vie, alors et ce que nous montrent profondément les deux livres, qu'ils peinent déjà à se définir comme être. Quelles sont les limites de leur être? Qui sont-ils? Où en sont-ils? Et c'est ça qui, dans les deux cas, là, réunit les deux livres, sur cette tension-là en permanence entre ces injonctions pas forcément claires du monde du travail, ces injonctions à devenir, devenir quelque chose, à faire quelque chose de sa vie, alors qu'il peine dans les deux cas à savoir ce qu'il en est de cette vie. Les deux livres ont aussi un autre détail qui n'en est pas un. D'une façon générale, ils s'intéressent de très près au lieu. Hein, je parlais de la tannerie et je parlerai de l'usine. Au lieu du travail. Le lieu comme, évidemment, entité avec tout ce qui s'y rapporte de sociologie, d'urbanisme. Et puis le lieu comme l'endroit où on traverse cette idée de travail par le corps. Ils ont en commun d'entrer, de nous faire entrer en tant que lecteur, comme en caméra embarquée, en BD, comme on dit pour les journalistes quand ils s'engagent dans l'armée pour faire des films avec les troupes, avec le narrateur ou la narratrice, Jeanne dans le cas de Célia Lévy et la tannerie, et puis avec Thomas dans le cas de Les nuits d'été de Thomas Flahaut, dans les lieux mêmes du travail. Le premier chapitre est cette entrée en matière au sens propre dans les lieux, de façon très différente. Hein. C'est une expérience, dans les deux cas, très presque traumatique, parce que, pour le cas de Jeanne, voilà, vous allez nous le dire, ça, c'est compliqué. Et puis pour Thomas, c'est assez compliqué aussi de voilà, la rencontre avec ces lieux, avec ces machines tellement étranges, avec l'usine. Et ça, c'est la première entrée par laquelle j'aimerais vous convient à répondre. On va peut-être commencer par Célia, puis Thomas. Cette importance-là que moi, j'ai relevée. Alors peut-être que j'y mets plus d'importance que vous, mais tout de même, cette importance d'être d'emblée plongé dans les lieux du travail. Donc la tannerie et ce premier chapitre, Célia, où Jeanne fait sa première soirée d'essai, est totalement paumée, ne sait pas ce qu'on lui demande de faire. Et puis, c'est pour ça que j'envisageais corporellement, elle ne sait, au sens propre, au premier degré, pas où se mettre.
Oui, après, je pense que c'était plus fort d'un point de vue littéraire d'entrer in medias res de façon très directe dans le cœur du roman, puisque finalement la tannerie, le lieu, est un personnage, est un des personnages principaux, et c'est la cristallisation un peu emblématique de tout le récit. C'est ce qui guide et qui motive le récit, la narration, et et d'un point de vue, c'est-à-dire que le regard n'est pas panoramique, c'est un regard qui est à la hauteur du personnage. Et effectivement, elle ne sait pas où se mettre, quoi. Mais ce qui est, je me dis que c'est aussi, le terme de réalisme, moi, me gêne un peu quand on écrit un roman, mais c'est dans la réalité ce qui se produit souvent. Enfin, quand on commence un travail, on ne sait pas où se mettre, quoi. Et c'est vrai qu'elle passe pour une naïve Jeanne, mais en fait, si on se met à sa place et si on se souvient quand on commence un nouveau travail, il y a ce côté-là qui est un côté où on est perdu, où on ne sait pas, et où on pense beaucoup à la façon dont on apparaît aux yeux des autres. C'est pas si invraisemblable que ça, ni si fantastique ou si voilà. Mais il y a aussi ce que je voulais aussi transmettre par cette première scène, c'était une forme de foisonnement, de l'idée de presque de fête et de joie un peu factice et de mise en scène assez élaborée et que ça aille assez vite en fait, que les événements soient s'enchaînent de façon rapide et que ça lui fasse un peu tourner la tête et qu'elle sache absolument pas quoi faire, où elle est. Enfin, on a du mal d'ailleurs à un moment à se demander ce qu'est cet endroit, puisqu'il y a une péniche, le canal, un bal, en même temps un stand de tricycle, de la nourriture. Puis après, elle se retrouve encore ailleurs et elle comprend absolument pas où elle est parce que c'est immense. Donc ça montre aussi l'absurdité de ce type de lieu. avec le côté très naturel des personnes qui en fait ont pris le jargon, la langue qui va avec ce type d'endroit. Parce qu'il y a aussi, en plus, il y a des officiels, donc il y a un discours très, très officiel. Enfin, il y a le maire, je crois, et le directeur qui parle. Et donc, en fait, le ton est un peu donné. Enfin, c'est un peu comme une partition. Et donc là, on a vraiment la première note. Et ça permet aussi de comprendre, en tout cas, de voir vers où le lecteur, justement, il s'embarque, quoi. Je pense que c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même le contraire aussi comme espace industriel, disons, que dans ton livre, Thomas, parce que le côté attractif, quand même, est beaucoup moins là. Là, il y a quelque chose de l'ordre du parc d'attractions, du divertissement, enfin... Elle est quand même en fait séduite par ce lieu, tout en étant un peu étonnée. Elle est séduite, alors qu'on peut pas être séduit. Enfin, c'est presque impossible.
Alors très différemment, évidemment, mais il y a une attirance. Il y a quelque chose. Il y a une fascination pour les machines aussi. Le lieu, il est monstrueusement beau en quelque sorte. Enfin, c'est la première impression qu'il nous fait. Cette machine, elle fait peur et en même temps, elle attire. Alors là où le lieu est très différent aussi, c'est que Jeanne, elle est totalement perdue. Et là, en le relisant, je me disais, ben non, là, c'est un lieu, vu qu'il y a une utilité qui est autre, une grande fonctionnalité, il y a des flèches, quoi. Là, on lui indique bien, tu dois aller là, voilà. Mais tout de même, ça produit sur lui et sur nous, du coup, une impression très forte.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Célia, la tannerie apparaît, pour Jeanne qui vient de Bretagne et puis qui arrive comme ça dans ce grand lieu à Pantin, elle apparaît comme un lieu désirable, où c'est désirable de travailler. Et puis c'est un lieu où les gens de notre âge, moi j'ai 30 ans dans 2 mois, où les gens de notre âge et de notre catégorie sociale, qu'on a notre parcours scolaire, etc., bah, ils disent beaucoup, hein. Moi je voudrais bosser dans la culture et tout ça. Enfin, c'est devenu une petite musique qu'on entend dans les soirées, enfin, quand il y avait des soirées, quoi. Alors qu'en plus, en termes de trajectoire des personnages, le personnage de Thomas, il se retrouve dans des circonstances, dans un contexte personnel extrêmement différent. C'est-à-dire qu'il ne monte pas à Paris, il échoue à l'usine où a travaillé son daron. Et donc il y arrive, il est déjà déçu. Il se dit, j'aurais jamais dû me retrouver là, il y a eu un accident, quoi. Et il se remet de cet accident. Malgré tout, il y a une forme de fascination qui est due à sa généalogie, finalement, qui est due à ses mythes personnels, qui sont sans doute aussi dus à... Et ça, je ne résous pas complètement, à la façon dont il vit sa relation avec son père, avec les figures masculines autour de lui, les figures masculines et ouvrières. Donc voilà, mais il y a... Pour aussi rejoindre ce que dit Célia, moi quand j'écris, je visais le romanesque aussi, quoi. J'écris un roman, donc il y a une puissance littéraire à arriver justement in medias res. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai évité longtemps dans l'écriture. Si mon éditrice m'écoute, là, c'est dans nos discussions qu'est venue l'idée de commencer par ce passage qui venait bien plus tard, où il y avait une sorte de longue introduction qui était ce qui est maintenant le flashback, près de la page 50, je crois, qui revient sur cette espèce de dépression qui frappe le personnage de Thomas. Et j'ai vraiment décidé aussi de commencer par ça, parce que c'était important de faire entrer au fond le lecteur avec le personnage dans cette espèce de Big Bang qu'est l'usine, quoi, cette espèce de chaos un peu monstrueux. Et puis aussi parce que c'est en le relisant au moment du retravail que je me suis aperçu qu'en vérité cette page a été construite comme la première page de l'établi de Robert Linhart. C'était vraiment la même chose. Il y avait même une phrase qui m'était venue, enfin comment dire, c'était quelque chose qui m'avait échappé au moment de l'écriture. Dans la première ou deuxième page de l'établi, il y a un contremaître qui dit à un certain Mouloud de montrer à Robert comment fonctionne la machine. Et il dit, vas-y Mouloud, montre-lui. Dans mon texte, il y avait « Vas-y, Mehdi, montre-lui ». C'était vraiment la même chose, quoi. Et je me dis, bon, c'est curieux quand même. Alors, bon, voilà, j'avais déjà décidé de mettre une phrase de Robert Linhart en exergue. Et je me dis que c'est une bonne manière de commencer par là. Au fond, de parler de mon expérience personnelle, parce que le personnage de Thomas rentre, comme moi, Thomas Flau, était rentré dans cette usine qui ressemble beaucoup il y a quelques années, quoi. Hein, c'était vraiment, pour le coup, j'y mettais beaucoup de moi, beaucoup de mes perceptions de l'époque. Alors que ce n'est pas un livre autobiographique. Mais aussi, ça me mettait d'un seul coup comme ça. C'était un geste littéraire, quoi. Ça me mettait dans une tradition littéraire. Ça me faisait me positionner par rapport à un livre qui était important pour moi, quoi. Je dis en gros, ben voilà, Robert Linhart entre à l'usine, entre chez Citroën, voilà ce qu'il voit. Voilà ce que Thomas voit 40 ans, 50 ans plus tard, hein, puisqu'on j'ai commencé en 2018. Donc voilà. Et voilà, c'était ça qui était important pour moi aussi.
50 ans plus tard, et on y reviendra sur ce qui est devenu l'industrie, mais quand vous avez parlé justement de Robert Linhart et d'inscrire le livre quelque part dans une tradition littéraire, ça me fait penser sur le jeu des points communs et des différences avec lequel je m'amusais tout à l'heure, et j'y suis revenu en le relisant, j'ai bien vérifié, mais le livre de Célia Lévy, La Tannerie, est écrit au passé simple. C'est un parti pris littéraire, hein, je parlais du 19e tout à l'heure, et qui en lui-même, après évidemment, il faut le tenir, produit quelque chose presque chimiquement par le fait qu'il nous raconte en fait de l'extrême contemporain. C'est-à-dire que c'est daté, il y a Nuit debout qui est à peu près au milieu, donc grosso modo, on est dans les années 2015-2017, c'est très contemporain, et c'est au passé simple. Ce simple effet-là produit quelque chose, et évidemment, c'est surtout sur la longueur que le passé simple produit quelque chose. La question que j'aimerais vous poser à cet endroit-là, c'est la nécessité pour vous, la raison au départ, hein, dans l'idée première, puisque c'est un gros livre, donc c'est un projet qui vous a accompagné longtemps, de le situer dans une tradition, et dans celle-là, c'est-à-dire celle du roman, on ne va pas jouer avec le terme réaliste tout le temps, en tout cas du roman d'apprentissage, 19e, pour résumer un peu, en l'écrivant au passé simple, d'une manière... classique serait un peu vite dit, mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire l'inscrire dans une tradition littéraire.
Oui, enfin, je pense qu'il est inscrit dans une tradition littéraire, mais même en fait le sujet lui-même, mais parce qu'en fait, comment dire, étant donné que la littérature française, la plupart du temps, est entrée au patrimoine et elle entre fréquemment au patrimoine, et même les personnes qui enfreignent les règles du roman, comme on dit, classique, finissent eux-mêmes par devenir des auteurs classiques. Il y a un fond comme ça qui est un peu de l'ordre du monument, mais qui est là, quoi. Enfin, il est là, et donc moi j'ai décidé de l'utiliser comme on décrirait un arbre, ou en tout cas, oui. Et puis à partir du moment où il y a c'est-à-dire ce sont des mythes littéraires. C'est aussi une façon d'abord de les mythifier et donc de les démythifier. Si on reprend ce dont parle Barthes quand il parle des mythes littéraires et des mythologies. Et d'autre part, le passé simple, oui, l'emploi des temps qui sont des temps qui quelquefois ont disparu ou qu'on n'emploie pas du tout, c'est aussi pour marquer une forme de distance. Entre la réalité, la réalité, le romanesque, le personnage et l'auteur, en fait, enfin, et moi, quoi. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé assez instinctivement le passé et pas le présent ou juste l'imparfait ou le passé composé, quoi.
Les lieux sont traversés et vécus. Alors, on parlait longtemps de cette scène d'ouverture tout à l'heure avec cette place, hein, symbolique évidemment, la place dans une vie, mais surtout la place très concrète qu'elle ne trouve pas. Ils sont traversés par des corps, ces lieux, et c'est quand même un des points communs aussi des livres. Donc, chez Thomas, il y a le rapport... Hein, au travail lui-même, à la dureté du travail physique. Pour le coup, ce travail qui pourrait ne sembler pas être dur s'avère à la tannerie par moments très difficile physiquement aussi, parce qu'on les met dans des conditions un peu invraisemblables, avec des travaux en même temps. À un moment, il y a des animaux à garder. Enfin, il y a des conditions du coup du lieu qui recouvrent à un moment paradoxalement son ancienne nature industrielle de dureté, d'une manière presque absurde en plus, parce que venu d'en haut et on ne sait pas comment. Et ça, c'est ce qui leur arrive souvent, hein, à la tannerie, d'avoir derrière des allures de horizontalité, une verticalité qui en plus ne se dit pas et qui n'est pas claire. Mais le corps est partout et je repense par exemple aussi au moment où Mehdi, le copain arabe de Thomas, trouve un emploi de veilleur de nuit qui lui fait honte. Et on lui dit, il y a tout un passage sur l'uniforme en fait. Il a l'impression de n'être bon qu'à être qu'un corps, en fait, dans un uniforme. Que c'est sa seule fonction, c'est sa fonction première. Et Le corps me semble être fondamental comme instrument de perception dans vos livres et comme endroit de l'empêchement, dont on pourra voir que c'est un empêchement social aussi. Mais elle ne sait pas quoi dire. Elle est sans cesse empêchée physiquement de participer aux conversations. C'est pas d'abord, me semble-t-il, un empêchement de penser, ça peut lui venir, mais toujours après coup, parce que le corps, cette histoire de qu'on pourrait appeler timidité, me semble, pour ce qui est de Jeanne, l'empêcher au premier lieu, c'est-à-dire que la distance et son incapacité à entrer en scène, en quelque sorte, dans le jeu social, c'est d'abord par le corps qu'on en ressent l'empêchement.
Oui, puis en plus, bon, je crois qu'en plus au début, elle s'est habillée. Il y a aussi les habits parce que, en gros, elle est hôtesse d'accueil. Et bon, là, les hôtesses d'accueil, c'est un peu plus cool. On leur demande pas de porter des talons, etc. Mais c'est elle-même qui se l'impose avant même d'avoir commencé, enfin, avant qu'on lui demande, puisqu'elle, je crois, elle porte un tailleur et donc.
Elle se met mal à l'aise physiquement. C'est-à-dire qu'elle se met des tenues dans lesquelles elle n'est pas à l'aise.
Je crois qu'à un moment, il est question des doudounes, ils ont froid. Moi, je pense que toutes les personnes qui ont été hôtesses ou hôtes d'accueil, à un moment, voient un peu ce que c'est. Quoi. C'est-à-dire qu'on est souvent dehors. Enfin, moi, je l'ai fait plusieurs années, et en fait, on est souvent dehors. Ce n'est pas du tout la même fatigue physique. Il n'y a pas le côté abrutissement et abrutissant que tu décris, Thomas, dans Les Nuits d'été, moi, qui m'a beaucoup marqué sur le côté où on est complètement déphasé entre le jour et la nuit, et une espèce de fatigue qui est permanente, en fait. C'est un peu différent, mais c'est vrai que... moi, je sais ce que c'est que d'être hôtesse d'accueil, donc on a mal aux pieds. Talons ou pas talons, talons, c'est encore pire, mais sans talons, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes, et ça, elle en parle, quoi. Et aussi, le fait d'être souvent debout, d'être dehors, fait qu'on a froid. Et donc elle parle beaucoup du froid, je crois à un moment. Donc il y a ça, et bon, il y a que elle, effectivement. Il y a toute la représentation aussi et sociale et un peu de genre où elle a l'impression de ne pas correspondre ni à l'image qu'elle se fait de la Parisienne, ni à l'image qu'elle se fait du canon féminin, quoi. Et ces deux choses-là combinées et qui vont ensemble. L'empêche de prendre la parole et elle pense ne pas avoir en fait le bagage culturel pour pouvoir s'exprimer, prendre la parole avec ces personnes qui lui semblent supérieures ou intellectuellement quoi et socialement en fait parce que c'est ça surtout.
Et là je repense à Mehdi et à son corps qui est en même temps si vif et si en mouvement en permanence, mais qui se sent dans les mêmes empêchements aussi. C'est-à-dire que il n'est de toute façon pas à même de faire autre chose qu'être qu'un corps parce qu'il est assigné d'origine. Mais Thomas, qui lui n'est pas arabe, mais vient par cette forme d'empêchement aussi d'arrêter ses études, dit précisément à un moment, c'est page 42, il faudrait que j'aille la chercher, qu'il ne parvient pas à penser, qu'il lui est impossible de penser. Ils sont persuadés d'être interdit de penser en quelque sorte que ça leur est voilà physiquement pas possible.
Je pense pas que c'est une question d'interdiction, c'est vraiment une question d'empêchement. C'est que très vite, puisque moi comme Célia aussi, c'est un texte qui part, un désir de texte qui part d'une expérience concrète, une expérience d'aliénation au travail, quoi. Je pense de la souffrance du corps au travail. Comment dire ? Moi, j'ai pu écrire que des années après, vraiment, vraiment là-dessus, parce que justement, au fond, c'était très difficile de se dissocier, de penser le travail tout en le faisant. Je travaillais de nuit à l'usine et je rentrais le matin en stop. Et je tenais un petit carnet où je racontais juste ma nuit, mais très factuellement, comme ça, en buvant une bière avec mon colocataire à 7h du matin. Et voilà, c'était tout mon carnet que j'avais pris à l'Economa, quoi. Il y avait juste vraiment des faits que j'énumérais et c'était plus ou moins voilà, ce que j'avais fait dans la nuit, sur quelle machine j'avais bossé. Ça allait pas loin parce que c'était tout le temps la même. Bon, c'est un empêchement parce que l'usine prend tout l'espace de la tête, prend tout l'espace de la vie, prend tout l'espace des rêves aussi. Je crois que j'écris ou j'écrivais. Si je crois que j'écris, c'est comme une langue étrangère. On finit par se dire qu'on commence à l'intégrer quand on la rêve, quand on rêve dans cette langue. Donc quand on commence à rêver dans la langue des machines, on est mal barré en fait. Voilà. Donc ça arrive à tout le monde. Et comment dire, peut-être que du côté de Thomas, il y a vraiment cette question qu'est la mienne en tant qu'enfant d'ouvrier. C'est comment mon père a fait pour tenir, pour être disponible pour ses enfants, pour ses amis, tout en ayant ça qui m'a terrassé en quelques mois. Comment est-ce que mon grand-père, ma grand-mère ont réussi au fond à pas devenir fou? Comment cette génération de gens réussissent à ne pas devenir fou? Voilà. Je pense que cette question de l'empêchement de penser, elle est beaucoup plus traitée à travers le personnage de Thomas qu'à travers le personnage de Mehdi. Mehdi, c'est un autre empêchement. Il a tout à fait conscience, au fond, qu'il est... En tout cas, il a l'impression que sa vie est finie, je pense. Il a l'impression qu'il est bloqué et qu'il peut plus aller, et qu'il peut plus aller nulle part. Il trouve, et sa vie, elle trouve une issue... un mauvais contour, quoi, sur une route de montagne. Mais ouais.
Les corps et les lieux. Donc, Mehdi et la moto, hein. Forcément, on y fait allusion. La difficulté à traverser, à vivre, à pénétrer ces lieux-là, au sens propre. Donc, les lieux du travail, on les a un peu évoqués. Mais il y a d'autres lieux symboliques dans les livres. Et quand je parlais de cette bascule de la jeunesse tout à l'heure, il me semble que quelque chose se joue là, dans leurs deux cas. Alors Thomas revient d'emblée sur ses lieux d'origine, c'est sous une forme d'échec au départ, mais il y a aussi une mélancolie qui le traverse parce que les lieux sont ceux de l'enfance. Il y a quelque chose qui revient. Et quand Jeanne va vraiment pas bien, elle retourne en Bretagne et il y a le même genre de mélancolie qui la prend face au paysage. Et le même genre de retour d'enfance aussi. C'est-à-dire que là, les lieux d'origine ont plusieurs vertus symboliques, me semble-t-il, hein, c'est-à-dire sociales, évidemment, les lieux de l'échec, mais les lieux d'où on vient, et qui sont à un moment de la difficulté de leur trajet un peu magnifiés dans leur tête, mais qui disent en même temps qu'en fait, ils ont déjà pris un coup de vieux. Parce que c'est le moment où, dans leur vie, ils sont en train de se dire qu'il y a eu un passé, finalement. Avant, ils étaient jeunes. Et quand on est jeune, on ne pense pas à l'enfance. Et quand on devient adulte, on commence à se rappeler qu'on a été enfant. Célia, Thomas, qui veut... Célia ?
Non, moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même trop jeune encore pour se dire ça. Je ne sais pas si c'est une question d'âge. J'ai plutôt l'impression que c'est qu'elle est prise entre deux mondes. C'est-à-dire que... elle est montée, elle est à Paris, elle est prise dans une vie comme ça d'apparence et de et un peu frivole, et en même temps quand elle revient et elle n'appartient plus en fait à son lieu d'origine, quoi, donc elle n'appartient à aucun lieu réellement, enfin, ou c'est ce qu'elle se dit du moins, c'est qu'elle n'est ni réellement que Paris ou la banlieue parisienne. En tout cas, là où elle évolue professionnellement, c'est pas un territoire ni hospitalier ni intime. Et qu'en même temps, ce qui serait l'intime ne l'est plus, elle le rejette. Enfin, elle le rejette et elle le voit comme finalement extérieur à elle-même. Et la ramenant à quelque chose qu'elle a toujours... Elle a essayé, en tout cas dans les dernières années de sa vie, d'effacer.
Le passé dont on aurait un peu honte, et la classe sociale, évidemment, voilà, d'origine. Thomas, ouais, le retour sur les lieux.
Ouais, dans le livre de Célia, ce qui est très marquant, c'est cette ambivalence. Dans le moment du retour, des premières vacances en Bretagne, il y a des passages vraiment très brûlants. La fin de l'été, la fin du mois d'août, où elle retrouve cet Erwan, il se baigne, etc. Il y a des moments très, très brûlants, très, très chaleureux, comme ça, avec une sorte de... Comment dire, une joie au premier degré du retour, avec une honte de ce qu'on retrouve, quoi. Je pense à Madame Armand, c'est ça, hein, voilà, elle dit, ben voilà, elle a un peu honte de ce qu'elle raconte, elle se dit, ben, je vais le raconter à mon collègue qui va peut-être venir, on va se moquer d'elle, de cette femme qui lui est finalement assez... assez proche, quoi. C'est quelque chose que je traite plutôt par la bande, cette question de la honte. Dans mon texte, elle est sous-entendue plutôt, je crois. En tout cas, elle est sous-entendue dans le parcours de Thomas, qui dit qu'il a eu honte parfois du comportement de son père, qui parlait en dialecte, qui s'adressait aux serveuses, etc. Il y a...
Il y a Louis, sa sœur, qui semble partie pour mieux s'intégrer dans la société, mais qui à un moment ne supporte pas, en fait, de s'enfuit d'un lieu, de chez son...
Alors là, c'est une sorte de honte inversée, je sais pas, ou de colère, je sais pas, quand elle se... Je crois que ça se cristallise vraiment sur des objets. Elle est chez cet homme qui s'appelle Jules, qui s'impose à lui-même une trajectoire inverse de celle de Louise, qui est une trajectoire qu'elle a conçue, une trajectoire de bon élève, quoi, hein, qu'elle a conçue naïvement comme une trajectoire d'ascension. Ces enfants des classes populaires stabilisées qui passent par la fac, quoi. Moi, j'en étais, hein, il y a, je crois, 28% d'enfants d'ouvriers et d'employés à la fac. C'est beaucoup, c'est presque un enfant sur trois. Donc, Louise en fait partie, comme moi, j'en ai fait partie. Et... elle se retrouve chez ce jeune homme qui a fini ses études de philosophie, qui les a lâchés pour faire un apprentissage de charpentier. Il a des parents architectes avec une très très belle maison. Et je crois que la maman de cet homme, de ce jeune homme, met un disque de Coltrane. Et puis je crois qu'à l'intérieur d'elle, c'est trop, quoi. Le repas est bon. C'est un repas en quatre services. Il y a Coltrane qui passe. Il y a peut-être même des chandeliers en argent. Je sais pas. Là, c'est trop, quoi. C'est pas possible. Faut s'en aller, quoi. Elle a vraiment terriblement, terriblement honte. Donc il y a ça, il y a cette honte sociale qui est presque un topos en littérature, quoi, ces 30 dernières années. C'est très prégnant, quoi. Et puis il y a aussi une description peut-être de ce lieu de l'enfance comme un lieu de mélancolie, mais aussi un lieu de chaleur, un lieu de lumière qui vient contrebalancer finalement la dureté des nuits d'été dans mon livre. J'écris mes livres, je sais pas toi Célia, mais moi je vois des couleurs aussi, hein, dès le départ. Et mon premier livre était un livre gris, hein. Il était très sombre. Voilà, c'était une explosion nucléaire, tout ça. Enfin voilà, j'ai pas de main morte, quoi. Mais là, je voulais vraiment un texte plus lumineux, un texte où, on est dans ce lieu gris et mélancolique qu'est le quartier dans lequel j'ai. Une image du quartier dans lequel j'ai grandi, mais c'est aussi un lieu où on s'aime et où on pratique une sorte de communauté perdue. C'est-à-dire qu'on retrouve ses amis d'enfance et on fait comme si la vie ne nous avait pas éloignés. On s'aime toujours. On est là ensemble. On ne pose pas la question du social. On se positionne pas dans l'arc social. On aime. Et c'est tout. En tout cas, moi, je voulais. J'ai écrit ce livre aussi pour me dire que c'était possible, parce que j'avais l'impression que dans ma vie, ça l'était pas. Et voilà, j'ai écrit ce livre aussi pour retourner au lieu de mon enfance où je ne retourne plus, et retrouver mes proches, retrouver mes amis, faut recréer une communauté par la littérature et par la langue, par cette troisième personne qui passe de point de vue en point de vue, quoi.
Tout au long du livre, ne parvenant pas, je pense, à adhérer, à pénétrer, à avoir les clés, les codes, aussi bien langagiers que sociaux, Jeanne est dans des formes de rejet, aussi bien de la famille que du Erwan qu'elle croise. Et il y a une scène notamment très cruelle, je crois que c'est pendant Nuit debout, où elle rencontre une ancienne copine de fac ou de lycée, enfin bon, du début de sa formation, qui va encore plus mal qu'elle. Et elle en jouit. Enfin, elle, c'est la première fois, enfin, c'est une des seules fois où elle parvient à tenir un discours complètement valorisant de son boulot, qui est un discours fake en plus, hein, enfin, qu'elle fabrique, parce qu'elle ne traverse pas vraiment ça en ce moment. Et je l'ai trouvé terrible, ce moment-là, de révélateur des effets de la honte sociale, en fait, de ce qui se passe en elle, du trouble dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'elle ne parvient à dire du bien de sa situation que pour enfoncer quelqu'un, enfin, voilà.
Oui, puis bon, c'est le moment où, enfin, Jeanne est plutôt un personnage, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est positif, mais un peu, quoi. Elle est plutôt passive. Et c'est le seul, enfin, c'est un des seuls moments dans le roman, je pense, où elle est active. Enfin, où elle est plus active, où on sent une forme de, où elle, il y a une forme de perversion, enfin, de méchanceté, de volonté d'écraser quelqu'un qu'on ne sent pas d'habitude, qu'on ne sent pas. Dans les passages précédents ou même ceux qui viennent, enfin après c'est plus ambigu, elle essaye quand même quelquefois sans y parvenir, c'est juste que là elle y parvient parce que
elle tombe sur elle plus faible qu'elle à ce moment-là, plus
et mais quelqu'un qui en même temps elle a perçu comme fort, c'est ça aussi qui est ambigu, quoi. qu'elle a perçu comme intégrée, comme réussissant. Et là, tout d'un coup, elle se sent en position de supériorité. Je pense qu'il y a aussi, de la frivolité de sa part, puisqu'elle passe son, et du narcissisme, puisqu'elle passe son temps dans la scène à se regarder dans le miroir, et aussi une forme de rivalité féminine, je pense, quand même. Je pense que le fait qu'elle soit du même genre, enfin, du même sexe, joue. C'est-à-dire qu'il y a, là-dedans aussi la rivalité qu'il peut y avoir entre deux femmes, ou... et pas de la sororité, quoi. Enfin, en tout cas, pas un rapport d'entraide, mais un rapport... C'est aussi ça, c'est que c'est... Il n'y a pas de rapport d'entraide. Et c'est aussi, je pense, le fond du roman, c'est que il n'y a pas d'entraide entre les employés. Il n'y a pas d'organisation sociale, c'est-à-dire, comment dire, contestataire... Alors que, quand même, historiquement, enfin, le contexte social leur tend des perches aux employés. Je veux dire, ils peuvent s'en saisir quand même. Et il n'y a pas d'entraide, à aucun moment, quand un personnage, un des employés ou une employée rencontre des problèmes avec la direction, il se passe quelque chose. C'est l'inertie la plus totale quand même. À part quelques discours un peu catastrophés dans un bar. Et là, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que. L'empathie, elle est rare, quoi. Et l'entraide qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de classe sociale ou de traitement, subi ou de le fait que deux femmes puissent s'entraider, là, dans le roman, c'est peu, ça existe peu. Ce qui ne veut pas dire que dans la réalité, ça n'existe pas. Mais là, en tout cas, dans mon roman, je crois que ça n'existe pas beaucoup.
Oui, j'allais dire. Et je me suis rattrapé avant même de finir de le penser que le livre de Thomas, tel que vous le revendiquiez, glisse des épiphanies, instaure de la douceur dans un cadre social qu'on décrit souvent de façon très brutale, parce qu'il est cruel, parce qu'il y a de la pauvreté, etc. Alors que vous changez le scope ou la lumière sur des milieux qui sembleraient beaucoup plus heureux, smiley et éveillé et enthousiaste. Vous faites apparaître une violence tue ordinairement sur le monde du travail en lui-même, dans la tannerie et dans les milieux culturels.
Bah parce que c'est censé être sympa, quoi. Donc non, mais clairement, et c'est vrai que l'usine, c'est censé être pas sympa, mais je pense qu'il y a une culture. Enfin, moi, je veux pas, mais il me semble qu'en tout cas, il y a une culture peut-être et syndicale et d'organisation et d'entraide, et aussi dans un prolétariat qui aussi assume et peut-être a une forme de fierté, a une certaine fierté par rapport à ça, qui fait qu'il y a une entraide. Mais comme dans les cités, il y a plus d'entraide que dans les quartiers bourgeois. Enfin,
il en reste quelque chose. Alors, c'est un peu dilacéré, c'est ce que dit le livre aussi. C'est la classe ouvrière. Leur travail précaire, l'usine qui ferme, qui démonte symboliquement, ça dit bien aussi qu'on essaie quand même de liquider ça, je pense, ce qui était de l'ordre de la culture de classe.
Oui, alors je suis pas sûr que les usines qui ferment liquident, enfin peut-être pas vraiment l'usine qui ferme qui liquide la culture de classe ou la conscience de classe. C'est les évolutions du travail depuis l'époque de Leroy Berlinhardt, l'apparition du travail intérimaire. Moi, j'ai grandi à Audincourt. Il y avait un foyer de jeunes travailleurs tout près de chez moi, et Stéphane Beau avait fait une enquête dans La misère du monde qui se passait dans ce foyer de jeunes travailleurs. C'était en 1991, donc date de ma naissance. Et déjà là, c'était des intérimaires qui venaient des quatre coins du pays, quoi, et qui venaient bosser là. Ils n'avaient aucun horizon, etc. Donc ça commence à dater. Moi, ce qui m'a frappé en lisant finalement le livre de Célia, en se disant qu'on allait mettre nos deux comme ça, c'était finalement le rapport qu'entretiennent dans leur discours les personnages à la politique, ou à la lutte collective. Ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'entraide à la tannerie. Mais par contre, il y a des tunnels où on a tous les top-eyes comme ça du discours de gauche. Il y a un peu tous les clichés de la gauche des 10 dernières années qui reviennent comme ça. Et je veux dire, moi il m'arrive trop souvent de parler comme ça aussi. Mais voilà, je retrouvais ça, alors qu'au final, il n'y avait pas de... Comment dire, c'est comme si tout était, la politique était qu'une affaire de discussion et de posture qui ajoutait un peu de valeur à soi, quoi, à la manière dont on se montre aux autres, mais que ça avait pas de prix sur le réel, quoi. C'est une fiction politique qui est comme ça énoncée par les personnages, alors que les miens, ils s'abstiennent de parler de politique, et même Louise, en fait. Ils s'en abstiennent complètement, et ils disent, font l'amour, on n'en parle pas, on le fait, la politique, on n'en parle pas, on ne la fait pas non plus. Mais par contre, comment dire, la littérature, peut-être qu'elle peut des toutes petites choses, peut-être ce qu'elle peut faire d'intéressant, c'est quand elle sait qu'elle ne peut faire que des petites choses. Alors moi, je voulais que mes personnages se révoltent, mais de façon un peu petite, un petit truc, quoi. Et là, c'est ce qui se passe à la fin de mon livre. Enfin, je raconte qu'ils ont bloqué l'autoroute et qu'ils ont fait quelque chose, parce que tu parlais de culture syndicale et tout ça. Là, on est en Suisse et il y a une comment dire. Le côté documentaire du texte, c'était aussi de montrer une situation de domination très très particulière, qui est celle des travailleurs frontaliers, qui ne vivent pas qu'en Franche-Comté, qui viennent aussi de Lorraine, qui viennent aussi de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, qui viennent aussi de Hauts-de-France. Donc. Et comment dire, c'est une organisation du travail qui permet de balayer toute possibilité d'organisation syndicale, quasiment. Ils ont un salaire un petit peu meilleur, bien meilleur que s'ils bossaient comme intérimaire chez Peugeot à 20 km de là. Mais tout de même, il n'y a aucune possibilité quasiment d'organisation collective. Et donc voilà, le fait politique, ils ne peuvent pas en parler au fond, parce qu'il n'y a même pas possibilité de s'organiser. Ils se sentent tout à fait exclus de ça au fond. Ils font que de la subir, la politique, sans savoir vraiment que c'est de la politique, parce qu'ils sont entre deux pays. Par contre, peut-être qu'il peut y avoir une sorte d'explosion de rage.
Puis ils passent par les corps, on y revient. C'est ce qu'ils font, ils manifestent au sens propre quelque chose. Et il y a quand même un petit peu de ça qui passe par moment dans Nuit debout, c'est-à-dire l'engagement du corps dans quelque chose signifie une possibilité, une brèche à un moment, alors qu'on est effectivement envahi de discours surplombants, et notamment le cas du camp de migrants qui est à côté de la tannerie. Ils se sentent tous, à un moment, il y a quelque chose comme ça, ils se sentent tous bien parce que la direction a donné un message, et ce message leur permet de continuer à abstraire le camp et à ne pas le voir, en fait. Il y a eu des mots pour recouvrir les choses. Mais au moment du debout, par moment, ouais, corporellement, il y a quelque chose qui semble pouvoir se réveiller.
Oui, puis bon, en fait, c'est mes personnages. C'est les personnages qui sont... à part Saïd, parce que quand même, il y a le personnage de Saïd qui est quand même différent et qui, lui, s'engage réellement, et qui n'a pas peur de le dire, même, de l'assumer.
Oui, mais il est exclu, du coup.
Voilà, il est exclu. Il est exclu assez rapidement. Puis même, c'est un personnage quand même qui est très fuyant. D'ailleurs, qui m'a fait un peu penser... qui m'a un peu fait penser au personnage de Mehdi. Oui.
À ma relecture aussi. il y a des échos.
Qui parle pas beaucoup, mais qui ont une forme de colère et un côté un peu... très entier dans leur... justement, l'engagement au corps et la prise de risque.
Ce qui amène aussi une clairvoyance, parce que y a un moment très jouissif où Saïd remet à sa place Julien sur la théorie de la valeur, quoi. Voilà, il dit, non, tu dis un peu de la merde, voilà, c'est ça, ouais. Juste comme ça, juste bien envoyé. Comme ça.
Merci, et c'est là où ma place est cruelle. Il est 17h44 et notre temps est bientôt échu, et je voyais le sourire qu'il y a entre vous de savoir que cette discussion est lancée, va pouvoir se continuer par ailleurs, et c'est une joie. Je n'ai pas vu le dixième des questions qu'on pourrait encore plier, déplier avec ces deux livres passionnants. J'espère sincèrement que la rencontre avec ces deux auteurs, je n'en doute pas, vous aura donné envie également. Dans quelques instants, la remise du prix Effraction SGDL avec Ariane Bois qui va donc remettre ce prix. Hein, c'est la deuxième édition du prix. Il y avait 5 ouvrages en lice, dont les deux vôtres, et nous allons savoir dans quelques instants qui est l'heureuse lauréate ou lauréat. Encore une fois, merci à tous les deux pour vos livres d'abord, et puis pour cette parole ouverte. Bonne suite et bonne fin de journée à chacun.
Bonjour, je m'appelle Ariane Bois, je suis présidente du jury Effraction et de l'Action culturelle à la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres représente 6000 auteurs de l'écrit. C'est le plus ancien syndicat français d'auteurs et nous en sommes très fiers. Alors nous sommes très heureux d'être associés à la Bibliothèque publique d'information pour cette seconde édition du Festival Effraction, qui est donc dédiée à la création littéraire contemporaine. C'est un pari gagné, je crois, parce que ces trois journées ont été riches de découvertes, de rencontres littéraires, et c'était tout à fait naturel et évident pour la Société des gens de lettres de s'associer à cette manifestation parce que nous partageons les mêmes missions qui sont de valoriser la création et de promouvoir tous les auteurs de l'écrit. Chaque année, nous remettons des prix au printemps, à l'automne, des prix littéraires qui sont dotés des grands prix en juin et des prix révélation au mois d'octobre. Donc nous avons souhaité remettre en partenariat avec Effraction et la BPI, un de nos prix qui récompense, encourage et soutiennent la création contemporaine et des auteurs émergents. Avec le prix Effraction, nous cherchons à récompenser un ouvrage qui résonne avec le réel, qui suit l'actualité, et il faut qu'il soit paru entre janvier et décembre 2020. Donc avec les équipes de la BPI, nous sommes mis au travail, nous avons sélectionné des ouvrages, choisi le lauréat. D'ailleurs, vous pourrez en découvrir certains lors des ouvrages en podcast dans la série qui s'appelle « Réelle fiction » réalisée par la BPI. Je voulais d'ailleurs prendre le micro à cette occasion pour remercier les équipes de la BPI et tout particulièrement Emmanuel Payen, Annie Brigand, Monica Prochniewicz, Inès Carme, de nous avoir aussi permis de nous associer à cette belle manifestation, d'avoir réussi le pari de cette toute première édition. Et pour cette nouvelle édition, le jury qui est composé de Manon Denis, qui est lycéenne, Bernadette Vincent, qui est bibliothécaire, Anaïs Châtaignier, qui est usagère gagnante du concours pour participer au jury, et de 4 membres de la Société des gens de lettres, François Thierry, Marianne Rubinstein, Gérald Aubert et moi-même, nous remettons donc le prix à celui que je vais appeler Thomas Flao pour son excellent roman « Les nuits d'été » paru aux éditions de l'Olivier. Thomas, si vous voulez me rejoindre sur la scène... Je suis ravie de vous rencontrer. Je voulais vous dire quelques mots sur votre très, très beau roman. C'est un deuxième roman qui est tout à fait ébouriffant. On suit donc trois personnages, Mehdi, Thomas et Louise. Les garçons vont se retrouver à l'usine. Louise fait une thèse sur les ouvriers. Et c'est un portrait, ce qui nous a vraiment épatés, c'est le portrait d'une génération. Un portrait fait avec empathie, avec compassion, avec délicatesse. Lorsque l'usine va fermer, le désarroi est évidemment palpable. Il y a de l'impuissance, il y a de la colère, il y a de la révolte. C'est un très grand roman social. Vous vous inscrivez dans une lignée qui est celle de beaucoup d'auteurs et qui est celle, par exemple, du prix Goncourt de Nicolas Mathieu. Donc, vous pouvez en être fier. Et au nom du jury, je vous félicite et je vous remets le chèque de la Société des gens de lettres. Alors, le chèque est un petit peu plus petit que ça, mais l'enveloppe mérite, le livre méritait bien une belle enveloppe. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.